de Samuel, le premier chapitre. J'en fais lecture. 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. Josué, juge Ruth, 1 Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsut, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu ? Tu ne manges pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que tes fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, et on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Et je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elle y reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Voilà un texte qu'on connaît. On en connaît l'origine au moins. Mais j'ai pensé à ce texte dans le contexte de notre Église, dans notre contexte à nous. Parfois, nous avons été blessés, offensé, poussé à la limite par un frère, une sœur. J'ai pas d'exemple en tête, hein, rassurez-vous. Et puis, ces événements font de nous des reclus. On ne vient plus à l'église, on rencontre plus les frères et sœurs, on ne parle plus. Mais savons-nous que lorsqu'on a été blessé, lorsque nous mettons en avant l'injustice, alors nous sommes un terrain fertile pour l'amertume. Un terrain qui produit peu à peu, de manière insidieuse, les rejetons qui nous amènent à une attitude destructive. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. L'amertume attriste le Saint-Esprit. C'est une racine empoisonnée, faite de colère, de ressentiment, de tristesse, de rancœur. Elle amène, cette amertume, un zèle amer, un esprit de dispute qui fait beaucoup de dommages et peut même nous conduire à la violence. Voilà quel était l'état de Anne, qui année après année était poussée à l'extrême par Pénina. On pense parfois qu'on a le droit d'être amer. Vu ce qu'on a vécu, j'ai le droit. Mais considérons un instant ce que dit Dieu à Joseph. Joseph était un personnage biblique qui a beaucoup souffert. Vous vous rappelez ? Ses frères étaient jaloux. Le papa n'aidait pas, certes. Et finalement, ils ont fini par le vendre. Ils voulaient le tuer au départ et ils l'ont vendu comme esclave, accusé, emprisonné pour un acte qu'il n'avait pas commis, oublié par les chansons. Il avait toute raison d'être dans l'amertume. Pourtant, il se laissa consoler par Dieu en reconnaissant la main divine que Dieu préparait Joseph pour sauver son peuple. Il a ainsi triomphé dans cette destinée. Si l'amertume avait pris le devant, le peuple n'aurait pas été sauvé. Dieu n'aurait pas accompli sa tâche. Ainsi, ce matin, mon message va tourner autour de plusieurs choses. Mais lorsque, finalement, les événements de la vie, lorsque les personnes autour de nous nous amènent à devenir amers, prenons ce recul pour que Dieu nous aide. Examinons-nous nous-mêmes, à savoir pourquoi ces choses. Une des choses qui m'a marqué, qui nous marque dans ce texte, c'est que il est dit au verset 18, ta servante trouve grâce, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Une chose qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu prend quelqu'un, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. J'aimerais juste travailler un petit moment sur le contexte. Parce qu'on a, des fois, on a un petit peu de mal avec le contexte de l'Écriture. Ces événements prennent place à l'époque des juges. Élie était à la fois sacrificateur et il était juge. Et il l'a été pendant 40 années. Mais c'était quoi, cette époque des juges ? Premièrement, c'était un temps où la parole ne se faisait pas entendre, où la parole n'était pas entendue. 1 Samuel 3:1, théoriquement, il y a le texte qui devrait apparaître. Voilà. Le jeune Samuel, officier pour le Seigneur devant Élie, la parole du Seigneur était rare. En ce jour-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Il n'y avait aucune aspiration, aucune vision spirituelle. Déborah, la prophétesse, et un autre prophète, dont on ne dit pas le nom, était le seul à prophétiser. Prophétiser, c'était annoncer la parole. Imaginons un temps où le péché est tellement fort, est tellement répandu, que Dieu est silencieux. Il y avait si peu de personnes qui s'intéressaient à Dieu, qui cherchaient la solution en Dieu. Le livre des Psaumes nous dit que Dieu regardait s'il trouvait quelqu'un de juste et qu'il n'en a trouvé aucun. Wow. Le prophète Amos avertit dans Amos 8:11. Il dit ceci, les jours viennent, déclaration du Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils rechercheront la parole du Seigneur en titubant et ne la trouveront pas. Waouh! Vous avez déjà lu ce texte ? Je susciterai une famine, non pas de pain et de vin, ou de pain et d'eau, mais de la parole de Dieu. On la cherchera et finalement on ne l'entendra point. Aujourd'hui, on dit que notre monde est religieux. Mais notre monde ne cherche pas Dieu. Et pourtant, il est proclamé, il est entendu. La radio diffuse, la télé diffuse. Ne sommes-nous pas dans une période de famine ? Un écrivain chrétien, que vous ne lirez certainement pas, qui s'appelle Adam Clark, c'est un théologien méthodiste du 19e siècle, a dit la pire des famines. La pire des famines, c'est la famine spirituelle. Quand aucun proclamateur n'apparaît, aucun conseiller spirituel n'est contacté, aucun apologète, prédicateur pour montrer la voie du salut ou pour assurer quant à la grâce de Dieu pour ceux qui se repentent ou qui reviennent à Dieu. La pire des famines, c'est la famine spirituelle. C'était le contexte. Deuxième chose à retenir, c'était un temps où il n'y avait pas de limite. Juges, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait. Il n'y avait pas de limite. Dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait que c'était l'anarchie. Pas de prophète prêchant la parole, pas de valeur, on fait ce qu'il nous plaît. Cause toujours, on s'en tape. C'est pas moi qui le dis, c'est Maître James hein, dans sa chanson Laissez passer. Cause toujours, on s'en tape, tape, tape. Vous l'avez jamais entendu cette chanson ? Elle est belle, hein ? Mais c'est notre siècle, mes amis. C'est la philosophie de notre siècle. Cause toujours, on s'en fiche. À mon époque, on disait cause toujours, tu m'intéresses. Maintenant, la jeunesse dit on s'en tape. Désolé, je cite directement. J'espère que Maître James m'en voudra pas. Aujourd'hui, on a mis un mot en place, un état d'esprit en place, tolérance. Il faut tolérer le péché. Par contre, on devient très intolérant vis-à-vis de ceux qui parlent de Dieu. Pas de limite. Même les fils d'Élie, qui sont sacrificateurs aussi. 1 Samuel 2:12, les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Rendez compte, ils ne connaissaient pas le Seigneur. C'est tellement triste, non ? Pour un homme de Dieu, un homme comme Élie, souverain sacrificateur, juge, comment n'a-t-il pas élevé ses enfants, ses propres enfants, à connaître Dieu ? J'ai mis une petite ligne. N'oublions pas qu'amener nos enfants au 177 avenue Henri Barbus ne fait pas d'eux des chrétiens. C'est l'éducation qu'on leur donne, c'est ce qui se passe à la maison qui aide. Les valeurs, c'est les parents qui les transmettent. L'Église, quand elle se réunit, communique un message. De là à dire qu'Élie n'avait rien fait, je ne sais pas. Et je ne veux pas, surtout pas le juger. Mais c'est tellement triste. Élie n'a pas su arrêter ses fils. N'a pas su cadrer ses enfants. N'a pas su éduquer. Vous savez quoi ? Il en est mort. Il en est mort. Quelle tristesse ! Quelle tristesse ! Troisième chose, dans le contexte, c'était un temps où il n'y avait pas de respect. Pas de limite, pas de parole de Dieu, pas de respect. Parce que les enfants d'Élie bafouaient l'offrande du Seigneur, parce qu'ils vivaient dans l'immoralité, il s'ensuit un manque de respect. Si ceux qui sont en haut le font, alors ? Alors ? 1 Samuel chapitre 2, verset 17. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ils bafouaient l'offrande du Seigneur. Ils bafouaient. Et regardez ce qu'Élie leur dit au verset 24 du même chapitre, 2, 24. Non, mes fils, non, mes enfants, là, c'est bien. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple du Seigneur à la transgression. Mes amis, notre témoignage, notre contre-témoignage, amène les autres à ne pas aimer Dieu. Waouh! C'est intéressant quand on regarde l'époque des juges et notre 21e siècle. Et on dit qu'on a évolué, qu'on a progressé. On n'a pas évolué, on n'a pas progressé. Le cœur de l'homme est exactement le même. Mais qu'en est-il de ceux qui disent connaître Dieu? Quand l'irrespect rentre dans la maison de Dieu par les serviteurs, alors cela gagne le peuple de Dieu. Malgré ce qui se passe dans le peuple, Dieu a utilisé une femme pour faire la différence. Dieu va utiliser une femme pour faire la différence. La place de la femme, hein, on la cherche. Les hommes la cherchent, les femmes la cherchent. Quelle est leur place et quelle place, j'entends dire. Hein. Revenons à notre texte. Élie est assis dans la maison de Dieu. C'est son travail d'être assis, hein, il n'est pas à la RTP. C'est sa responsabilité. RATP, c'est reste assis, t'es payé. Mais peut-être dans un, et c'est pas vrai, mais dans un sens différent, il attend, il observe, il regarde. Il est sur son siège. Et puis, il voit une famille arriver. Et là, son regard est attiré par la dame. A priori, il n'a peut-être même jamais vu quelqu'un venir avec un tel état d'esprit. Et j'imagine notre âme amère, horrifiée, dans les cordes. J'en ai marre ! Usée par les reproches, par les méchancetés de Pénina. Elle vient quand même, mais je ne dirais pas malgré elle. Et Élie voit ça. Oh ! Eh ben, et nous, dans quel état d'esprit venons-nous ? La bonne question, la question qui m'interpelle souvent, c'est que nous sommes tellement amers que nous n'allons pas à l'église. Parce qu'on est fatigué, on se repose. Mais où est-ce que nous allons trouver un soutien si ce n'est pas à l'église ? Où est-ce que c'est que nous allons entendre la parole de Dieu si nous ne l'écoutons pas ? Elle est stérile. Et le texte nous disait tout à l'heure, Dieu l'a rendue stérile. Oh, punition. Peut-être nous sommes stériles. Peut-être pas dans le même sens. Peut-être dans un sens différent. Vide, désespéré, englué dans les problèmes, dans le péché, aspiré par les événements et le monde. Ça peut être notre stérilité. Elle ne produit plus rien à part l'amertume. Mais elle est venue avec un fardeau. Le cœur lourd. 1 Samuel 1:10 dit Élie. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle se mit à prier et à pleurer. Vous savez, dans le monde évangélique, pleurer, c'est pas une bonne chose. Faut pas pleurer. Dieu est là. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Mais nous, il ne faut pas qu'on pleure. Ben si, il faut pleurer. Je pense que répandre son cœur, c'est ouvrir son cœur. Dire voilà, mets ça sur le cœur, Seigneur. Je n'en peux plus. C'est trop là. Tu dis dans ta parole que y a rien qui peut être au-delà de mes forces, mais là, c'est... Sur une échelle de 1 à 10, les infirmières, hein, quand vous avez mal à l'hôpital, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi, 15. Ah bon. J'ai dit 1 à 10. Et là, elle est là, Anne. Et elle vide son cœur. Elle prie, elle pleure. Elle a son cœur trop chargé. Elle a besoin de vider le sac. Et elle le vide là devant son Dieu. Elle est venue à la maison, elle aurait pu rester. Elle aurait pu s'en aller, elle aurait pu dire mais Dieu, ça fait des années, vous avez vu ? Ça fait des années. C'est pas la première année, le premier mois, la première semaine, le premier jour. C'est des années. Et elle est venue là. Elle est venue avec un cœur lourd. Mais elle est venue. Et elle prie. Elle prie du fond de son cœur, et le texte nous dit même, elle prie dans son cœur. Ses lèvres bougent, mais il n'y a pas de son. C'était entre elle et Dieu. Et même, elle ne fait pas que prier. Il est dit qu'elle persiste, ça veut dire que ça a duré. Ça a duré. 1 Samuel 1,12, comme sa prière se prolongeait devant le Seigneur, Eli regardait sa bouche. Vous avez déjà regardé les autres prier ? Quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui crie à Dieu, ou quelqu'un au contraire qui a une relation personnelle avec Dieu ? Des fois on est impressionné, non ? C'est exactement le cas des disciples quand ils ont vu Jésus prier. Ils se sont dit, Seigneur, il faut que tu nous apprennes à prier comme toi, comme toi, comme toi. Je ne sais pas si Anne est un modèle, mais elle peut être un modèle pour plusieurs d'entre nous. Lorsque l'amertume est là, lorsque finalement on a perdu le contrôle, lorsqu'on est au bord, qu'on est prêt de tomber. Elle a prié, elle a persisté. Le texte nous dit même, elle s'est répandue, comme de l'eau, hein, c'est l'image de l'eau. Elle s'est répandue, elle a vidé son cœur. 1 Samuel 1,15, mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée. Je n'ai ni bu, ni boisson, ni rien. Je me répandais devant le Seigneur. J'ouvrais mon cœur. Ça fait du bien, non ? Vous savez que dans notre société, on paye des gens. On a créé des gens, et c'est bien, pour que les gens aillent leur parler. Et ils payent. Et on paye, n'est-ce pas ? Je ne vais pas le prononcer, mais bon, voilà, les gens médicaux qui ont cette faculté à qui on va parler. Mais on a quelqu'un à qui on n'a pas besoin de payer pour le faire. On peut ouvrir notre cœur à Dieu. Offrir notre cœur aux frères et sœurs. Et Anne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini par vider son cœur. Elle s'est répandue. Répandue, c'est pas parler à mots couverts, à mots cachés, à mots politiquement corrects. Faut pas dire ça. Non, dis pas ça à Dieu quand même. Mais quand on ouvre son cœur à Dieu, ce que Dieu veut entendre, c'est le fond de la pensée. Oh, il la connaît, mes amis. Il nous connaît. Il sait, la parole de Dieu dit qu'avant que même ça sorte de ma bouche déjà, il sait ce que je vais dire. Mais il veut l'entendre. Pas de langue de bois. Le psaume 42 nous montre l'état d'esprit pendant qu'elle se répand. C'est intéressant parce que quand on voit quelqu'un prier, quand on voit quelqu'un pleurer, on se dit, mais elle a perdu le sens. Ça y est, il n'y a plus rien. Et regardez bien, psaume 42. Voici pourtant ce dont je veux me souvenir quand je me répands sur moi-même. Je marchais avec la foule, je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu dans les cris de la joie et de la reconnaissance d'une multitude en fait. Oh. Voilà ce que je veux me souvenir pendant que je me répands. Elle se répand parce qu'elle sait que Dieu l'écoute. Que son seul point de salut, son seul point de raccord, c'est Dieu. Où allons-nous chercher des solutions, mes amis? Le monde médical est équipé et j'ai rien contre. Et je n'ai rien contre. Il ne faudrait pas qu'on dise « Jean-Claude, il est fâché avec ces gens-là ». Non. Et ces gens-là peuvent nous aider, certes. Mais il y a quelqu'un qui peut aussi nous aider. Et qu'on n'utilise pas parce que finalement, on n'osera pas dire à Dieu ce qu'on va dire à notre médecin. Mais Dieu, il est capable d'entendre aussi ces choses, vous savez. Il est capable de nous écouter. Et il est capable de nous répondre. Voilà ce que je me souvenir. Quand je répands, je marchais dans la foule et je m'avançais jusqu'à la maison de Dieu avec des cris de joie. En répandant son cœur, Anne est assurée que Dieu l'écoute. Et ce qu'elle a dans son cœur, c'est sa relation avec Dieu, c'est son passé avec Dieu. Elle a un passé, elle a un présent avec Dieu, et elle souffre. Le livre des Lamentations, qu'on ne cite pas souvent, au chapitre 2 et au verset 19, il dit ceci, « Lève-toi, lève-toi, au début des veilles de la nuit, répands ton cœur. » Comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim dans tous les coins de rue. Remettre nos enfants, notre famille, nos amis. Pleurer pour ceux qui ne sont encore pas à Dieu. Pleurer pour ceux qui sont en danger. Répandre notre cœur. Seigneur, garde-les. Seigneur, protège-les. Et combien on a de mamans qui nous ont témoigné ces choses. Qui ont à cœur leurs enfants, ces enfants que Dieu leur a donnés. Et qui ne connaissent pas Dieu. C'est une des souffrances, n'est-ce pas? Mais ça peut être l'amertume qui peut être là. Priez pour celui qui nous offense. Priez pour nos ennemis. Pour ce mauvais propriétaire. Qui ne veut pas rendre la caution. Je suis désolé, c'est du concret, c'est du pratique. Mais c'est ça notre vie, n'est-ce pas? Ils nous harcèlent. Ils veulent l'argent, du beurre, le beurre, la vache et la crémière et un sourire avec. Mais Dieu est là. Alors elle fait une promesse. Après s'être longuement répandue, après avoir longuement prié, crié, elle dit, Seigneur, ah ben, écoute, on va faire un deal. Hein. Si tu m'écoutes, ou si tu réponds favorablement, alors moi je m'engage. Si tu me donnes un fils, je te le rends. Deal. Ça ne t'arrive pas de faire des promesses comme ça? De dire, oh Seigneur, si je m'en sors, je te promets, je vais à l'église tous les dimanches. Je te promets, je lis la Bible tous les jours. Il y a plein de choses, hein, quand on est en limite, on est prêt à faire cette promesse à Dieu. Hein. Seigneur, si tu m'écoutes, je te promets, je fais un truc. Mais Dieu, il n'a pas besoin de la promesse. Dieu, il n'a pas besoin qu'on fasse un deal avec lui. Lui, il s'est engagé. Il a dit qu'il nous écoutait, qu'il nous répondait, selon sa volonté. Alors, le 1.18, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'elle n'a pas la réponse. Elle ne sait pas ce qui va arriver. Elle ne sait pas si elle est partie pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de galère. Mais elle est fortifiée. Elle est fortifiée. Je suis ta servante que je trouve grâce à tes yeux. Puis elle repartit, mangea et son visage ne fut plus le même. Ah ! Savoir qu'à un moment, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait pour sortir de mon amertume. Sortir de ma méchanceté, sortir de mon péché, sortir de mes problèmes, être assuré que Dieu, lui, est en contrôle. et que s'il veut que je reste dans cet état-là, il va me donner sa force. Que s'il veut que je sorte du péché, il va me donner la porte de sortie. Que si j'ai un problème relationnel, il va me donner les moyens de parler avec la personne. Où Dieu va envoyer cette personne. Ha ! Et son visage ne fut plus le même. Quand on est angoissé, quand on dort plus, quand nos fardeaux nous écrasent, c'est facile d'être dans la joie. C'est facile d'avoir ce beau sourire du chrétien évangélique. Non. Ah, ça va pas, non, ça va pas. Moi, tu sais, t'aurais mes problèmes. T'es pas à ma place, mon frère. Réponds ton âme devant Dieu. Viens à l'église. Viens rencontrer les autres. Viens épancher ton cœur. On a ce privilège de pouvoir écouter les autres. Et pas de leur dire, non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Vas-y, pleure un bon coup. Répands ton âme devant Dieu. Dis-lui ce que tu penses. Alors elle loue Dieu. Samuel, effectivement, le fils qu'elle aura, devient une puissance spirituelle du pays. De Rama, sa ville de naissance, il avait une grande influence sur les gens. Il va les amener jusqu'à la repentance. Dans 1 Samuel 7:6, il est dit, ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau, la répandirent devant le Seigneur, et là, ils jeûnèrent en ce jour-là. C'est là qu'ils dirent, nous avons péché contre le Seigneur. Samuel était juge en Israël, à Mitzpah. Dieu ne va pas forcément nous accorder des enfants. Mais une chose qui est sûre, par l'exemple d'Anne, c'est que Dieu peut nous redonner la paix, la réconciliation, l'amour. Pour cela, Dieu a besoin de nous entendre, de nous écouter. Quand on est frustré, quand on est amer, quand l'amertume, la méchanceté, la rancœur commencent à prendre plus de place que l'amour, quand elle nous isole, quand elle nous empêche d'avoir des relations avec les autres, quand elle nous retient, quand elle nous dit « reste couché, ça ne sert à rien de te lever, prends ta vie, ça ne sert à rien de la vivre. » Dieu a un plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui nous retient de venir à l'église? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir les autres, de pleurer avec eux? La Bible dit, pleure avec celui qui pleure, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Elle ne dit pas juste, réjouis-toi avec ceux qui pleurent. Comment sommes-nous venus ce matin? Chargés? Le cœur lourd? Englués dans nos difficultés? Dans nos péchés? Détruits peut-être par les autres? Voulons-nous être fortifiés? Ne avoir un visage qui ne sera plus le même. Et regardez bien, quand elle a eu son visage qui n'était plus le même, elle n'avait pas la réponse. Elle n'avait pas la réponse. Mais elle est partie assurée que la réponse d'Élie avait été que Dieu réponde. Mais il n'avait pas dit quoi. Nous nous sommes répandus ce matin. Nous avons prié. On n'a pas persisté parce que le temps ne nous a pas laissé l'occasion de persister. Peut-être il nous vient à l'esprit, en écoutant ce message, de dire « Mais moi aussi, je veux bien faire une promesse avec Dieu s'il répond. » mais serions-nous prêts à donner ce que nous nous sommes engagés à prendre ? Avant de prendre un engagement, la Bible dit d'y réfléchir. Mais une chose est sûre, et je la rappelle ce matin, c'est que Dieu a pris l'engagement de s'occuper de nous, comme la prunelle de ses yeux. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, c'est parole de vie, moi je vous donnerai le repos. Vous qui peinez, vous qui êtes englués, vous qui êtes amers, vous qui regrettez presque, venez. Venez. Et vous trouverez du repos. Vous retrouverez la sérénité. Non pas l'assurance que tous les problèmes sont résolus, mais que Dieu va s'occuper de vous. Alors, moi je veux juste prier. Prier avec vous. Que si vous êtes venu ce matin avec un cœur lourd, un cœur chargé, un cœur embarrassé, un cœur qui n'arrive pas à s'exprimer. Il y a bien des années, une trentaine d'années, mon cœur était lourd, mon fardeau était grand, et je me débrouillais pour arriver à l'église en retard et partir en avance, avant que le pasteur ne termine sa prière. Comme ça au moins, pas de dialogue, pas de questions, pas de rapport. Et ça a été comme ça, et plus ça allait, ça a duré un certain temps, quelques semaines. Quand un jour, alors que je poussais la porte pour me sauver, un couple était derrière. « Ha ! Tu vas où ? Tu rentres chez moi ! T'es pressé ? Ah oui ! Je vais voir Becky. On va te retenir un peu. Tu vas nous dire quel est ton problème. » Et en toute douceur, ses amis m'ont écouté. Ensemble, on a passé l'après-midi à pleurer de tout ce que j'avais entendu, vécu, de toutes ces choses qui m'avaient rendu isolé. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et on a pu demander à Dieu sa grâce pour que ces choses s'effacent, pour que Dieu apaise mon cœur. Peut-être vous êtes là. Ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui est là, qui ne vient plus parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de prier, de toute façon il n'y a pas de réponse. Et puis regarde, quand on prie, regarde la réponse. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et vous trouverez du repos. Quelle délivrance. Le jour où on dit à Dieu, c'est bon, c'est toi qui conduis. C'est toi qui m'aimes. Si je suis là, tu vas me donner la force de passer au travers. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Si vous êtes là, à venir à lui. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as laissé ce témoignage, ce beau témoignage de Anne, la maman de Samuel, ce matin. Et Seigneur, ce matin, tu connais la situation de chacun. Tu sais que je n'ai pas préparé ce message en connaissant l'un ou l'autre. C'est toi qui as voulu. Mais en tout cas, Seigneur, si tu as donné ce message, c'est que tu avais l'intention de toucher quelqu'un, quelques-uns, qui ont peut-être ce cœur lourd, qui peut-être ont des raisons de l'avoir lourd, qui peut-être ont été rejetés, bafoués, peut-être ils se sont laissés avoir, peut-être ils ont du mal à faire marche arrière. Mais toi, Père, tu as la solution. Et comme Anne, tu veux porter la paix sur le cœur, pour que il ou elle ne soit plus jamais le même. Alors, mes amis, nous voilà devant Dieu, une fois encore. Et peut-être, voilà, vous êtes comme Anne. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous arrête. Des questions, vous ne trouvez pas la réponse. Un péché qui vous barre. Je vous invite ce matin à baisser pavillon, à répandre votre âme, à répandre votre cœur, pour que Dieu puisse vous aider, vous encourager. Je ne peux pas vous assurer de sa réponse, mais je peux vous dire qu'il va répondre. Alors, y aurait-il quelqu'un ce matin qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle, afin que Dieu prenne sa main? Oui, il y a déjà une sœur qui a levé la main. Oui, que Dieu vous bénisse. C'est pas facile, hein? Oui, que Dieu vous bénisse. C'est pas facile d'accepter, voilà, Seigneur, je veux crier à toi. Je veux répandre mon âme. Tu vois ce qu'il y a dedans, tu vois pourquoi c'est là. Mais Seigneur, je sais que toi, tu t'en occupes. Y a-t-il encore quelqu'un? Quelqu'un, oui, que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, Seigneur Jésus, tu vois ces amis qui ce matin ont crié vers toi pour que, parce que leur situation est difficile, parce qu'ils sont peut-être au bout, parce que pour des raisons extérieures, ils sont devenus amers, ils se sont mis à part, ils ne comprennent plus. Mais toi, Seigneur, tu veux toucher leur cœur. Tu veux les consoler, tu veux cicatriser, tu veux les aider à sortir de cette difficulté. Et tu veux mettre ta joie dans leur cœur. Alors Seigneur, bénis-les. Bénis-les abondamment. Bénis ton église ici à Vigneux, Seigneur. Que rien n'empêche nos relations les uns avec les autres. Que nous ne mettions pas de barrières entre nous. Des barrières infranchissables. Mais Seigneur, toi, n'importe quelle barrière, tu peux la renverser. Tu peux passer au travers. Alors Seigneur, parle au cœur et continue de faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.